Merci Philippe Lefebvre. Et aujourd'hui, l'histoire d'une communauté oubliée, les chrétiens du Nil, les Coptes. Les Égyptiens sont plus religieux que le reste des hommes. Hérodote. D'histoire. Plus de 4 siècles avant la naissance du christianisme, les Égyptiens pratiquaient leur religion avec tant de ferveur qu'Hérodote disait d'eux qu'ils étaient plus religieux que le reste des hommes. Et l'on comprend pourquoi au pays des pharaons, des pyramides et des tombeaux de la vallée des rois, le christianisme a trouvé un terrain favorable. C'est là, quelque part au bord du Nil, qu'est née une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, les Coptes, dont la religion a surmonté toutes les épreuves de leur histoire. Le martyre sous les Romains, l'oppression des Byzantins, la rupture avec le reste du christianisme en 451, et 2 siècles plus tard, l'arrivée des Arabes, dont la religion a submergé celle des Coptes sans la faire disparaître. Au Caire, à Assouan, à Alexandrie, à Assiout, et dans les premiers monastères du christianisme, ils sont encore des millions à la pratiquer dans une région du monde de plus en plus menacée par le fanatisme religieux. France Inter, Stéphane Paoli et Jacques Plana, le 4 janvier 2000.
Planète Est-Ouest, Nord-Sud, le Caire. Les affrontements qui ont eu lieu entre musulmans et coptes en fin de semaine dernière en Haute-Égypte ont fait 20 morts et 33 blessés selon un dernier bilan.
En effet Stéphane, les incidents de ces derniers jours sont les plus meurtriers depuis les affrontements interconfessionnels de juin 81 qui avaient fait 14 morts et 50 blessés dans un quartier populaire du Caire. Mais cette fois encore, les troubles ont commencé vendredi dernier par une banale querelle entre deux commerçants, un copte et un musulman, à propos d'un différend financier. La tension était déjà très vive dans cette région où de graves incidents avaient déjà opposé il y a un an et demi la police à la communauté copte. Au cours de ces dernières années, les chrétiens d'Égypte ont été l'une des cibles privilégiées des intégristes. La violence islamiste avait débuté en mars 92 par le massacre de 14 chrétiens dans le village de Sanabou, à 300 km au sud du Caire.
Mahmoud Zibaoui, bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez d'écrire à la table ronde un beau livre sur les coptes, une communauté chrétienne dont on parle rarement. Sinon, on vient de l'entendre pour évoquer la violence dont elle peut être la victime, mais on ignore souvent leur histoire qui remonte très très loin dans le passé, dans l'antiquité égyptienne, bien avant l'arrivée de l'islam. D'ailleurs, ils portent, les Coptes, le nom de leur pays.
Tout à fait. Copte veut dire tout simplement égyptien. Oui. Égyptos. Le nom est devenu en arabe copte, c'est devenu la désignation justement des gens du pays, et avec le temps c'est devenu la désignation des chrétiens du pays.
Et c'est même le nom de leur langue.
Tout à fait, mais c'est un nom aussi plutôt tardif, c'est-à-dire au 1er siècle, au 2e siècle, je ne sais pas comment on appelait cette langue, c'était la langue égyptienne, mais c'était pas le nom copte comme on l'utilise aujourd'hui.
Et c'était même, je crois, la langue des derniers pharaons, hein. C'est une des plus vieilles langues du monde, même si les coptes d'aujourd'hui, je crois, ne la parlent plus beaucoup. Et alors, ça c'était dans un pays qui, avant l'islam, mais aussi avant le christianisme, était déjà très religieux, on l'a entendu dans cette belle phrase d'Hérodote, le plus religieux des hommes.
Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que le christianisme est né en Alexandrie, donc ad aegyptum, près de l'Égypte, comme on dit à l'époque. Donc, et c'est autant justement des Romains et non pas autant des pharaons. Donc le pays était fortement hellénisé. Il est né dans la métropole hellénistique par excellence de tout l'Orient, qui est Alexandrie. Donc je suis un peu, il faut voir les choses un peu subtilement et non pas séparer d'ailleurs entre Grecs, Romains et Égyptiens. Il y a des brassages très forts qui se sont opérés. Donc on peut pas parler de l'Égypte pharaonique à cette époque. Je ne sais pas comment c'était.
Et non, ce que je voulais dire, c'était que c'était un peuple très religieux, l'Égyptien d'Antiquité, et peut-être plus qu'ailleurs. C'est peut-être aussi pourquoi que les Coptes ont été peut-être plus chrétiens, en tout cas les premiers chrétiens, que le christianisme a trouvé un terreau plutôt favorable en Égypte, à cause justement d'une pratique religieuse antérieure au christianisme et qui était déjà très forte.
Oui, on peut le dire pour tout l'Orient. on va dire, pour la Syrie, pour la Palestine, pour l'Orient chrétien était largement le terrain au 5e, 6e siècle. C'était l'Orient par excellence, c'était chrétien, ça, il faut le dire aussi.
Et puis aussi un pays qui avait accueilli, qui est très présent dans la Bible, dans l'Ancien Testament des Juifs, parce que beaucoup de patriarches, justement, sont passés par l'Égypte.
Un passage, justement. Donc, il y a cette idée d'entrée et de sortie de l'Égypte qui va se répéter. Disons, autant d'Abraham, autant de Joseph. Puis, c'est une source. Et, justement, le massacre des innocents, la fuite en Égypte est cité dans un seul évangile, qui est l'évangile de Matthieu. Dans, justement, une approche très biblique.
Alors là, vous évoquez effectivement Jésus qui, juste après sa naissance, est venu en Égypte avec son père, sa mère, la Sainte Famille, quand Hérode avait décidé, parce qu'il craignait l'arrivée d'un nouveau roi avec Jésus, avait décidé de faire tuer tous les nouveaux-nés de Palestine.
Il n'y a pas de place pour deux rois ici.
Tuer les enfants mâles, sans exception jusqu'à l'âge d'un. Mieux vaut tuer quelques innocents que de laisser échapper le coupable. Partez d'ici aussitôt que vous le pourrez. Hérode nous a fait suivre, car nous venions vers vous. Il sait que cet enfant est né, il le fera chercher et tuer. Allez en Égypte. Ce ne sera peut-être pas pour longtemps. Les jours d'Hérode sont comptés maintenant.
Alors même si quand la Sainte Famille arrive en Égypte, il n'est pas encore question de christianisme, puisqu'il s'agit d'un Jésus qui vient de naître, les Coptes attachent beaucoup d'importance à ce passage de la Sainte Famille dans leur
énormément.
Pays.
Justement, c'est en quelque sorte une autre terre sainte, puisque hors de la Palestine, le Christ a foulé de ses pieds une seule terre, qui est la terre d'Égypte. Donc, ce mystérieux passage dans l'évangile canonique de Matthieu, disons, qui est évoqué très brièvement, devient un passage détaillé, ponctuel, avec une sorte de carte qui s'est développée au cours des siècles, impressionnant. Donc, mais c'est surtout, il faut voir les choses qui précèdent la légende ou la réalité, mais souvent l'inverse, je dirais, la dimension qu'a pris le passage, l'entrée du Christ en Égypte, comme dit le titre textuel de la fête, justement. Donc, ça fait...
Vous évoquez, Mahmoud Zibaoui, la grande fête copte qui est le 1er juin.
Oui,
qui célèbre le passage de la Sainte Famille. Il y a aussi, paraît-il, une trace, enfin, il y a plusieurs sanctuaires.
Des traces du pied
de Jésus en Égypte.
Ça ne se termine pas. On a dans l'étendue de... Mais surtout un monastère qui est le Deir el-Muharrak, là vraiment où toute une dimension a pris, justement, on croit même que le Christ est retourné, justement. L'ascension s'est opérée là où il a fui, il est retourné. Là, toute une dimension, mais spécifiquement une tradition égyptienne locale copte.
Alors, c'est pas Jésus qui a converti, bien sûr, les Coptes, mais c'est Saint Marc. Hein, ça, c'est lui qui a évangélisé les Coptes. Et tout de suite, hein, c'est pour ça que c'est une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, dès le 1er siècle, au début du 1er siècle. Saint Marc, d'ailleurs, dont les reliques étaient à Alexandrie, elles ont été, on l'a évoqué dans cette émission, volées par les Vénitiens. Je crois qu'elles ont été rendues en 1968, en partie, en tout cas, aux Égyptiens. Saint Marc qui était martyrisé, qui est mort martyrisé. Et on l'oublie aussi souvent, on est à l'époque romaine, les Romains dominent l'Égypte, et les plus grands martyrs, enfin en tout cas les persécutions les plus meurtrières de l'Empire romain, contre les chrétiens, c'est en Égypte qu'elles se sont produites, oui. Mahmoud Zibaoui.
Tout à fait. Bon, pour Saint Marc, c'est surtout un attachement pour donner à l'Égypte une dimension apostolique. Ceci dit, les textes sont assez secrets. Donc, où est la légende, où est la réalité, c'est assez subtil, comme tout. Ce qui concerne cette époque, les deux premiers siècles du christianisme, je dirais que le premier qu'il évoque ouvertement, c'est Eusèbe de Césarée. Mais Eusèbe de Césarée, nous sommes au 4e siècle. C'est lui qui le dit, et il le dit d'ailleurs, on dit que Saint Marc.
Mais le martyr des chrétiens d'Égypte,
oui, c'est une vérité.
Ça, c'est une vérité.
Le christianisme
est entré début du 4e
très
siècle.
Tôt en Égypte, c'est certain, puisqu'on a trouvé le plus ancien manuscrit de l'évangile de Jean, on l'a découvert à Antinoé, en Haute-Égypte. Donc, au 1er siècle déjà, le christianisme était et a percé la terre d'Égypte. Et l'église d'Alexandrie va devenir une des grandes églises.
Alors ça, elle va le devenir uniquement après ces persécutions sous Dioclétien, très brutales, encore une fois, je le répète, et quand Constantin autorise le christianisme, qui va devenir la religion de l'État romain, hein, c'est toujours les Romains qui sont présents. Et alors une religion, comme vous le dites, Mahmoud Zibaoui, qui est tellement importante, les chrétiens d'Égypte sont tellement nombreux, tellement puissants, qu'ils vont même inventer un certain nombre de choses dans le christianisme. Ce sont les Coptes qui ont inventé les premiers monastères du christianisme.
Oui, certainement. On attribue à Antoine, justement, cette idée, mais il faut là aussi cerner le moment. Au temps des persécutions, oui, mais c'est aussi le monachisme va grandir au temps où le christianisme devient religion
oui,
d'État.
Ça, oui.
Comme pour rappeler que le combat, la lutte intérieure, c'est le vrai combat, que les frontières ne sont pas là, justement. Et cette idée est restée ancrée. C'est le pays le plus monachiste jusqu'aujourd'hui. Il est impressionnant de rencontrer des Coptes et de voir à quel point les moines sont présents dans la vie.
À tel point que Saint Pacôme, je crois, a rédigé les règles qui deviendront celles de tous les monastères ensuite de la chrétienté.
Adoptées, certainement, ils sont adoptés, modifiés, mais la base, disons, des règles, lui, c'est Saint Pacôme, c'est ce qu'on appelle la vie cénobitique, c'est-à-dire une vie communautaire. On attribue à deux grandes figures, justement. Antoine, c'est l'anachorète, c'est-à-dire celui qui va et qui devient moine sans organiser une vie communautaire. Pacôme a organisé cette vie qui est devenue justement la règle de Saint Benoît ou de Saint Basile en Orient.
Alors à l'époque, l'église copte ne s'y distingue pas de l'église romaine, hein, c'est la même, jusqu'à une rupture qui est considérable évidemment pour l'histoire du christianisme en général, des coptes en particulier, c'est au concile de Chalcédoine en 451. Alors là je voudrais que vous nous expliquiez un peu de quoi il s'agit, parce que c'est une querelle qui paraît byzantine sur la vraie nature du Christ. Était-il Dieu et homme ou Dieu et homme en même temps, ou Dieu et homme séparément. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît complètement dépassé, cette querelle, mais c'est ça qui a provoqué la rupture avec Rome.
Tout à fait, la question avec Rome, mais surtout avec l'Orient. À l'époque, c'était Constantinople. Rome et Constantinople. Mmh. Il faut pas oublier que c'est le monde
c'est
grec.
C'est Byzance, oui.
À l'époque, et donc, et justement, Constantinople a été nommé supérieur, a eu un rang plus élevé qu'Alexandrie, et ça a fait croître la tension. Avant le concile de Chalcédoine, il y a ce qu'on appelle le concile d'Éphèse, la première rupture en Orient, justement. C'est aussi une question sur le Christ, était-il homme ou Dieu, ou Dieu ou
les deux
homme,
en même
voilà,
temps. Oui.
Voilà, c'est la grande question, une intersection des deux natures, une union des deux natures, une fusion des deux natures. On va pas rentrer dans les détails, justement, pour le grand public, ça paraît aujourd'hui comme des querelles byzantines. Mais il faut le dire que déjà en 431, première rupture, il y a ce qu'on...
Éphèse.
Justement, ce qu'on va appeler les Nestoriens, c'est déjà une première séparation. C'est l'Église d'Orient.
Enfin, ne compliquons pas les choses. Ce qui se passe, c'est la vraie rupture pour ce qui concerne les Coptes. C'est 451, donc le concile de Chalcédoine. Et là, à ce moment-là, l'Église copte se distingue
se range massivement, disons, derrière l'anti-chalcédonien.
Et elle croit en la nature unique du Christ, à la fois Dieu.
Subtil, là aussi, il faut être très, c'est un genre de...
C'est pour ça, en tout cas, qu'on appelle les monophysites, hein, à la fois Dieu.
Ils ne se sont jamais dit monophysites.
Et à la fois Dieu et homme, ils vont avoir leur propre liturgie, distincte de celle du catholicisme, ses rituels, et même son pape, aujourd'hui, 117e successeur, non pas de Saint-Pierre, mais de Saint-Marc, chez Louda III, un reportage de Claude-Marie Vadreau pour France Culture.
Les chants redoublent dans la cathédrale du Caire où le patriarche vient d'entrer salué par des applaudissements poursuivis par les enfants et les petites filles cherchant à embrasser sa main. Pendant les 2 heures au cours desquelles nous avons attendu l'arrivée du patriarche, du pape Chanouna, les fidèles n'ont pas cessé de lui faire parvenir sur l'autel les papiers pliés en 4, les offrandes, avec lesquels il lui pose des questions auxquelles il devra maintenant répondre. Il signe aussi des images pieuses, il se tourne vers l'iconostase. La cérémonie va commencer.
Mmh.
dans une des plus vieilles langues du monde, même si les Coptes ne la parlent ou ne l'entendent chanter qu'à l'église. Et alors, lorsque se produit la rupture en 451, ça devient la langue, ça devient la religion, ça devient la liturgie d'une église hérétique, Mahmoud Zibaoui. Car il y a une chose qui est importante, c'est que avant d'être persécuté ou après avoir été persécuté par les Romains, avant d'avoir été occupés par l'arrivée de l'islam, ils ont été d'abord persécutés par les Byzantins. Les Byzantins les considèrent, eux, comme des hérétiques, puisqu'ils ont rompu.
Alors, ça va être une longue histoire. Ça se termine pas en 451, ça a commencé en 451, oui. Les grandes querelles. Puisqu'il y aura aussi des tentatives de rapprochement, de trouver une autre doctrine qui serait une synthèse, sorte d'une seule énergie, une seule volonté et deux natures, mais tout cela va foirer. On va assister justement à une tension croissante entre Constantinople et Alexandrie. Constantinople, qui est devenue l'église de l'empereur, va instaurer un autre patriarche. Il y aura deux patriarches, en quelque sorte, sur le même siège. Et l'Égypte va se ranger massivement, c'est vrai, derrière l'anti-chalcédonien, l'anti-byzantin. Et cette querelle a un poids, dans le sens qu'aujourd'hui encore, les Coptes parlent, ils ont un jour où ils fêtent la fête des martyrs de 50 000 orthodoxes martyrisés par les Romains. Le mot orthodoxe en Occident, c'est justement le monde grec, le monde slave, l'église byzantine. En Égypte, le mot orthodoxe veut dire les Coptes. Oui. Enfin, c'est subtil. Les mots ont deux sens, en quelque sorte. Et c'est vrai, c'est une querelle du passé, mais elle a marqué l'histoire. Donc, l'islam conquérant est entré à une époque où la chrétienté était complètement déchirée en Égypte. Et il est vrai que après l'entrée d'Amr ibn al-As, donc le calife, qui est celui qui a ouvert l'Égypte, ce retour va permettre aux patriarches coptes exilés de retourner. Et les chroniques coptes sont très explicites sur ce sujet.
Vous voulez dire que les coptes, donc, ont accueilli les musulmans, quand ils sont arrivés au 7e siècle, en libérateurs, en quelque sorte?
Disons, avec un certain soulagement. Et pas partout. En Alexandrie, non. Alexandrie ne s'est pas livrée d'elle-même. Non, il y a eu une querelle et... Alexandrie a été conquise par la force. L'entrée en Alexandrie était bien plus difficile qu'en Égypte, qu'en haute Égypte. Mais ça marque un tournant de l'histoire. Je dirais qu'avec l'entrée de l'islam, là, la rupture va être consommée avec Byzance. Il est vrai.
Alors, la rupture va être consommée. L'islam est relativement tolérant. Il autorise la pratique, évidemment, de la religion chrétienne, hein, comme il autorise d'ailleurs la pratique des autres religions. À ceci près, Mahmoud Zibaoui, c'est que les non-musulmans sont considérés comme des êtres inférieurs, ce qu'on appelle des protégés, des dhimmis.
Oui. Il ne faut pas oublier que l'islam, au début, c'était une minorité qui va conquérir une majorité. Donc, là aussi, c'est un monde qui va s'arabiser progressivement. Il n'y a pas un islam, il y a des islams, il n'y a pas une époque, il y a des époques. Et le parcours historique est d'une complexité, d'un métissage incroyable, si on entre dans les détails.
On n'a pas le temps de le faire, c'est pour ça qu'allons plus simple.
Voilà, il est certain que l'Égypte va s'arabiser progressivement. Parler de persécution, c'est dur, il y a des persécutions sporadiques, certainement, mais d'une persécution dans le sens romain du terme, non. Ça, tous les grands historiens de l'Église.
Oui, mais il y avait quand même ce statut de dhimmi, c'est-à-dire de non-musulmans astreints à certains impôts que ne payaient pas les musulmans. Il y a des interdictions, je crois qu'ils n'avaient pas le droit, les coptes comme les juifs d'ailleurs, de monter à cheval, d'exhiber la croix.
Ça, c'est des époques, justement. C'est des décrets qui ont été prononcés à une certaine époque.
Oui, mais là, dans sa globalité, il y a des moments où...
Des moments très...
Où ils devaient porter une tenue particulière, par exemple.
Oui, mais ça, c'est des décrets qui ont été prononcés à une certaine époque.
Oui, mais
et parfois, ils étaient si sophistiqués qu'il était tout simplement impossible de les appliquer. Justement, il faut regarder l'histoire. Chaque fois que l'islam était dans une phase où il était puissant, dominant, il était souple. Et chaque fois qu'il était menacé, ce qu'on appelle les dhimmis subissaient en quelque sorte cette... Ces complications historiques.
Ce statut d'infériorité voulait dire qu'il n'a pas été continuel. Il n'a pas duré indéfiniment,
non.
Mais il a quand même existé.
Parfois il était plus croissant, parfois il était beaucoup plus souple.
Il y a une chose qui est assez surprenante aussi, Mahmoud Zibaoui, c'est que quand les croisés sont arrivés, eh bien les Coptes, ces chrétiens qui voyaient arriver d'autres chrétiens, se sont plutôt rangés du côté des musulmans contre les croisés.
Oui, même pas.
Dans la cinquième croisade, ça a été le cas, par exemple.
Tout à fait. Non, il faut pas oublier aussi, c'est un christianisme qui va devenir un christianisme oriental, une église autochtone, un monde. Il y a en quelque sorte trois chrétientés, je dirais. La chrétienté latine, la chrétienté grecque et la gréco-slave, et la chrétienté formée par ces Coptes, ces Syriaques, ces Syriens, ce monde oriental, ce monde de l'islam. Et le monde des croisés était un monde conquérant, il faut pas l'oublier. Ils les regardaient comme des vulgaires schismatiques.
Mmh. Aux yeux des Coptes.
C'était des hérétiques, des schismatiques. Même aux yeux des latins. Les textes sont très explicites. C'était des hérétiques ancrés dans leur hérésie ancestrale. Vous pouvez trouver des textes effrayants.
En tout cas, les Coptes vont continuer de pratiquer leur religion, appliquée même avec plus de rigueur que les catholiques romains quand les Coptes pratiquent le jeûne.
Le mercredi et le vendredi, le pape dit qu'on ne doit pas manger du poisson. Le mercredi et le vendredi, parce que le mercredi, Jésus-Christ a été haï par Judas, et puis pour le vendredi, il a été crucifié, vous voyez. Alors chez nous, le pape, on ne doit pas manger le poisson le vendredi et le mercredi. Nous devons jeûner jusqu'à 3 heures, sans manger. Après ça, nous mangeons alors des mets qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œuf. Tout ce qui est vivant.
Combien y a-t-il de jours de jeûne durant l'année?
Plus que 200. Ici, en Égypte, nous sommes depuis longtemps, on ne change pas. Nous ne changeons pas. Nous ne changeons rien de l'Église. Quoique le modernisme, quoique n'importe quoi, on ne change pas.
Une Église qui ne change pas, c'est bien.
C'est le mot.
C'est le mot.
C'est dit d'une manière assez brute, mais assez vraie. Je dirais, c'est fait à la fois la force de cette Église et sa faiblesse, en quelque sorte. Mmh. Ce monde traditionnel, fortement ancré dans une tradition, immuable, c'est ce qui fait la force de cette tradition, et en même temps, on se dit, il faut bien changer aussi.
Et puis une tradition très rigoureuse, vous me disiez en écoutant cet archive, Mahmoud Zibaoui, que le jeûne, c'était plus de 250 jours.
Plus de 280 jours, oui.
C'est fou.
C'est
quand
une
même.
Tradition monastique qui devient une tradition laïque.
Qu'est-ce qui distingue...
C'est la complexité du monde copte.
Qu'est-ce qui distingue, justement, puisque ce sont des chrétiens, la pratique de leur religion de celle des autres chrétiens, notamment des chrétiens d'Europe? Quand on voit les photos de votre livre, qui sont très belles, on a l'impression que ça ressemble beaucoup au rite orthodoxe russe.
Oui, c'est-à-dire dans le sens, c'est un rite traditionnel. Disons que les Coptes, c'est un monde, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit, en 451, c'est une séparation, oui, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a les Syriaques, c'est-à-dire les chrétiens de la Syrie, parce qu'il y a eu deux chrétientés en Syrie, en quelque sorte, et non pas une
majoritaire
comme
restons sur les Coptes d'Égypte,
oui,
ce dont vous parlez.
Oui, mais c'est la même tradition, en quelque sorte. Mais les Coptes sont les plus religieux, tout en suivant, doctrinalement, ils suivent la même doctrine, la même tradition, le même synaxaire, mais ils sont les plus religieux.
Des messes très longues, de nombreuses fêtes, on l'avait évoqué, celle du 1er juin, des processions. Oui. Est-ce qu'on peut dire combien sont les Coptes aujourd'hui en Égypte, à peu près?
Je dirais c'est une très forte minorité.
Parce que je sais que là-dessus, les chiffres sont variables. On dit entre 3 ou 6 et 10 millions.
Non, sûrement plus de 3, ça c'est certain. Sûrement plus de 6 millions. Mais pas quand même, pas le quart du pays, pas comme les chiffres gonflés que se donnent quelques Coptes. Mais sûrement, les 10 millions sont facilement... est un chiffre facilement, je dirais, légitime.
Sur plus de 60 millions d'Égyptiens. Ouais. Alors, parmi ces Coptes, un ancien ministre égyptien et ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, qui en 1997 parlait des rapports entre les Coptes et les musulmans égyptiens au micro de France Culture dans l'émission Staccato d'Antoine Spire.
Il a toujours existé une convivialité, une coexistence parfaite entre Coptes et musulmans, avec des frictions qui ont toujours eu lieu.
Il y a quand même des frictions récentes. Je pense bien sûr aux 8 Coptes tués il y a 18 mois en 92, aux 16 Coptes égorgés à Daïrout. Alors on peut toujours dire que c'est des fous islamistes, mais quand ça se reproduit beaucoup, est-ce que c'est pas très inquiétant?
Mais vous avez un nombre plus grand de musulmans qui ont été tués par ces mêmes fondamentalistes. un musulman qui est, ne partage pas leur croyance est encore plus mécréant que le copte qui appartient à une religion différente.
Nous avons des ennemis, les musulmans, vous savez. Nous sommes un pays qui, quoi que nous nous aimons tous, mais nous avons peur de ces gens-là. Nous avons peur.
Tout le monde souffre, mais personne ne parle de la souffrance copte. Nous sommes humiliés et les offensés et les oubliés de tous.
Humiliés, offensés, oubliés, ou au contraire, sont-ils des Égyptiens comme les autres, comme tentés, comme semblait le dire Boutros Rali Mahmoud Zibaoui?
Écoutez, il ne faut pas voir les choses noires et blancs. Ni cette... Ce que dit Boutros Rali n'est pas purement politique, je dirais, purement officiel. La vérité est beaucoup plus complexe. Comme je l'ai dit, c'est une histoire. Il y a des périodes qui sont calmes. Au temps de Mohammed Ali, les Coptes ont retrouvé une grande dignité, je dirais. Au début du XXe siècle, on a cheminé vers une modernisation exceptionnelle qui aurait été un modèle pour tout le Moyen-Orient. Cette aventure a trébuché dans les années 50-60 et aujourd'hui, c'est un désastre, je le dis très clairement. C'est un désastre, mais pas à l'échelle chrétienne, à l'échelle de toute l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte vit sombre dans des temps obscurs. Bon, on parle là de l'humiliation des Coptes. Aujourd'hui, depuis 3-4 jours, on parle d'une affaire du voile en Égypte qui est délirante. Le ministre de la Culture parle du voile comme c'est un retour au passé. Et il n'y a plus de procédures contre lui, plus de 120 procédures, comme quoi il a blasphémé.
Donc, vous voulez dire que c'est au fond assez général, que c'est en fait le vrai danger, c'est pas l'affrontement copte-musulman, mais c'est tout simplement le fanatisme religieux.
Tout à fait. Les Coptes ont été intégrés au début du siècle d'une manière exceptionnelle. Ils avaient des ministres beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et je suis pas pour leur nomination, parce que démocratiquement, ils vont pas accéder. Ça, le problème. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un problème en Égypte, qui est cet obscurantisme. L'Égypte se porte mal, comme tout le Proche-Orient se porte mal, il faut le dire. Donc, il n'y a pas un problème copte séparé.
Merci, Mahmoud Zibaoui. Je recommande la lecture pour en savoir plus de votre livre, magnifiquement illustré, Les Coptes, l'Église du peuple des pharaons, aux éditions de la Table Ronde. À lire également L'Égypte copte, les chrétiens du Nil, de Christian Canuyer, aux éditions Gallimard, collection découverte, et puis Pèlerinage d'Égypte, de Catherine Mayer-Jaouin, publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et enfin, Voyage chez les chrétiens d'Orient, de Frédéric Pichon, aux presses de la Renaissance, mais qui ne parle pas des Coptes et des autres christianismes en Orient. Vous avez pu entendre Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, disponible en DVD aux éditions Swift. Et tout de suite, notre jeu France Inter Le Figaro, dont c'est aujourd'hui le dernier jour pour gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro. Il faut répondre à la question sur notre sujet du jour. Où est exposée l'icône du Christ et d'Abba Menas, archétype de l'art copte? Au musée du Caire, au musée du Louvre ou au musée de Turin? Je répète, où est exposée l'icône du Christ d'Abba Menas, de l'art copte? Au musée du Caire, musée du Louvre ou musée de Turin. Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission en composant le 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Béziquian, Olivier Riotor, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et à notre réalisatrice Anne Comilac.